7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, le handicap dans la fratrie. Grandir avec un frère ou une sœur handicapée, cela bouleverse forcément un peu, beaucoup la famille. Les enfants peuvent se sentir délaissés au profit de l'enfant handicapé. Impression aussi que les parents leur consacrent moins de temps, sentiment d'injustice. Et puis à l'extérieur de la maison, il y a le regard des autres sur cette fratrie, pas comme les autres. Comment gérer cette situation pour les parents? Comment éviter de trop responsabiliser aussi les autres frères et sœurs. Nous allons en discuter avec nos invités. Bonjour Margot Bonhomme.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, vous avez réalisé le film Marche ou crève qui est sorti en salle sur les écrans français et qui sort maintenant en DVD. C'est une fiction d'une grande vérité sur un sujet, c'est vrai, qui est assez rarement abordé, l'histoire d'une jeune fille confrontée au handicap lourd de sa sœur et au divorce de ses parents d'ailleurs également. Sa sœur donc qui est infirme moteur cérébral. C'est un film qui est partiellement autobiographique. Vous nous direz pourquoi vous avez voulu aussi parler de ce sujet au cinéma et comment on aborde la question. Anne-Laure Poujol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue spécialiste des liens fraternels. Vous avez travaillé en particulier sur le handicap intellectuel. Hélène Daftian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue fondatrice de l'association Les Funambules qui accompagne les proches des personnes atteintes de maladies psychiques et en particulier justement les jeunes frères et sœurs qui sont parfois un peu oubliés de ce dialogue familial. Nous serons également en ligne, nous sommes déjà en ligne avec Elisabeth Tchungi, journaliste, maman de deux fils. Bonjour Elisabeth Tchungi.
Bonjour.
Deux fils dont l'aîné Alexandre est autiste Asperger. Vous avez publié, vous avez raconté cette histoire dans Le jour où tu es né une seconde fois aux éditions Flammarion. Mais vous êtes là aujourd'hui surtout pour nous parler de cette relation entre ces deux frères et de ce petit frère qui est arrivé ensuite. Vous nous direz bien sûr comment se passe cette relation et comment on fait pour ne pas privilégier, entre guillemets, mais celui qui a tant besoin d'attention. Quant à vous, les voisins et les voisines, appelez-nous si vous vous sentez concerné par le sujet. Vous pouvez bien sûr dialoguer avec nos invités au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro WhatsApp où vous pouvez poster des messages. Un message d'auditeur, Tahir, qui est à N'Djamena au Tchad, qui est un adulte en situation d'invalidité. Il nous dit « C'est dur de gérer le regard des autres, les gens ne me traitent pas comme les autres, les gens ne me respectent pas, n'ont pas d'estime pour moi. Et avec mon petit frère, ce qui est particulièrement difficile, c'est qu'il n'accepte pas mon opinion en cas de conflit familial. » Voilà, bien sûr, vous pouvez nous appeler, on aimerait vous entendre de vive voix au 33 1 84 22 71 71. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter le témoignage de Chloé, 11 ans. Son petit frère Aymeric, 9 ans, a été diagnostiqué autiste non-verbal à l'âge de 3 ans. Chloé fait partie de l'association Toupie à Paris, qui organise des groupes de parole pour les frères et les sœurs d'enfants handicapés. Justine Rodi a rencontré cette petite fille chez elle juste après le dîner pour parler de sa vie et surtout de son frère.
Bah, il s'appelle Aymeric et il est autiste.
Comment est-ce que toi, tu vois que ton petit frère, il est autiste?
Bah, il bouge les mains bizarrement quand il est excité. Parfois, quand on est dans le métro, le matin, bah, il s'énerve, du coup, il crie. Et parfois, il griffe. Finalement, il n'y a pas vraiment de différence à part ça.
Vous vous entendez bien?
Oui, je pense que c'est comme tous les frères et sœurs, il y a des moments où on se dispute, où voilà. Parfois, je trouve que c'est plus sympathique d'être avec un frère autiste parce que s'il n'était pas autiste, bah, on s'énerverait beaucoup plus facilement ensemble parce que j'ai une amie, bah, son frère, il l'énerve beaucoup. C'est pas un sujet qu'on aborde vraiment, mais parfois je dis à mes copines qu'il a parlé sans qu'on lui demande et du coup elles disent bravo, c'est un grand progrès. Bah, elles le félicitent parce qu'elles savent qu'il est autiste.
Aymeric est déjà couché. Ok.
Quand on était dans le groupe de fratrie.
De l'association.
Oui. Il y a quelqu'un qui a dit que s'il y avait que des handicapés et qu'il y avait une personne qui n'aurait aucun handicap, on dirait qu'elle est bizarre et qu'elle n'est pas normale.
Est-ce qu'on te le dit ça, que ton petit frère il n'est pas normal?
Oui, mais je m'en fiche. C'est leur avis et je leur dis qu'il est autiste. Mais je sais qu'ils vont me dire qu'est-ce que ça veut dire.
Et tu leur dis quoi?
Que l'autisme, c'est un handicap et que mon frère, il est autiste non-verbal. Ça veut dire qu'il n'est pas muet, mais qu'il y a dans son cerveau quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas à parler comme ça.
Il faut que tu m'envoies quelques correspondances si jamais il y a des trucs à signer pour demain, s'il te plaît.
Les gens, ils font une tête bizarre. Mais comme ils le regardent bizarrement, je leur regarde bizarrement.
Pourquoi?
Bah, qu'ils comprennent ce que ça fait. Parfois, il y a des gens qui disent chut, mais qu'est-ce qu'il fait?
Des enfants et des adultes?
Non, que des adultes. Les enfants, bah, je pense qu'ils s'en fichent. Par contre, c'est pas tout le temps comme ça. On me dit souvent qu'il est trop mignon.
Ça te fait quoi?
Bah, je suis fière. Bah, je suis heureuse que sur la personnalité d'Aymeric, qu'ils mettent pas autiste en gros et qu'ils soulignent pas ça. Et que quand ils voient Aymeric, bah, ils se disent pas tout de suite « Attention, danger public ».
Chloé, faut te brosser. Tu t'es brossé les dents?
Non.
Bah va.
Quand quelqu'un n'est pas handicapé, bah, on a l'habitude. Si on échangeait les rôles, bah, Aymeric il serait juste normal, c'est juste qu'il a un handicap.
Toi, comment tu le vois, ton frère?
Un gros nounours, c'est quelqu'un d'heureux avec les dents du bonheur.
Si tu penses au moment que vous passez tous les quatre, c'est à quoi que tu penses en premier?
Aux vacances, manger des glaces, écouter la radio et d'aller à la mer.
Voilà le témoignage de cette petite fille, Chloé, 11 ans, sur son frère, Aymeric, 9 ans. Finalement, pas tellement différent à part ça, c'est-à-dire le handicap. Alors, une enfance comme les autres ou pas pour les frères et les sœurs, Anne-Laure Poujol?
Une enfance comme les autres, oui, dans le sens où ils doivent créer leur relation, ils doivent apprendre à se sentir frères et sœurs. Et cette construction de se sentir frère, elle va passer par effectivement toutes les relations. Après, une enfance comme les autres, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même le handicap qui s'est invité dans la fratrie et qui va marquer forcément la vie de la famille de diverses façons.
Quel genre de lien ont-ils avec un frère ou une sœur handicapée, Margot Bonhomme? Vous avez décrit ça dans votre film. C'est vraiment une histoire dans l'histoire. Il y a cette bulle entre ces deux sœurs.
Oui, c'était d'ailleurs ce que je voulais montrer en premier. C'était cette bulle extraordinaire entre ces deux sœurs qui fait la force du lien, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est unique et à laquelle personne peut toucher. Donc, c'est ce que je voulais garder de mon enfance avec ma sœur, ouais, en particulier.
Vous êtes reconnue un peu dans le témoignage de Chloé, 11 ans.
Ouais, c'est très émouvant d'entendre une petite fille.
Ouais. Oui, parce qu'il y a tout de même... on a le sentiment qu'elle est presque adulte, finalement, dans la façon dont elle en parle.
Ben, ce que je vois surtout, c'est qu'elle est déjà en train de compenser, quoi. Donc, c'est ça qui me touche le plus, c'est que inévitablement et malgré tous les efforts, alors moi j'ai un côté un peu pas pessimiste, mais j'ai envie de tirer les sonnettes d'alarme un peu partout parce que c'est des choses qui n'ont pas été faites, mais inévitablement, malgré tous les efforts que les parents vont pouvoir faire, l'enfance elle est mêlée à la maladie et au handicap. Donc avec ça, il va falloir faire avec. Mais je vois aussi dans le témoignage de Chloé, ce que j'entends beaucoup chez les témoignages de frères et sœurs, c'est frères et sœurs courage, qui finalement ont mis une soupape sur beaucoup de leurs émotions Et c'est très très beau à entendre et très touchant, mais l'impact que ça a sur la vie future, en fait. Parce que l'enfance, enfin, je trouve que quand on est enfant, en fait, on est... d'ailleurs, elle le dit, les copines, elles sont très ouvertes. Finalement, dans l'enfance, c'est très préservé parce que le regard est très, beaucoup plus innocent et tolérant, en fait. Et c'est
moins, quand on moins grandit. Moins d'étonnement sur la différence, c'est ça
que... Bah oui, moi, je me souviens très bien, d'ailleurs, j'adorais mes copains et mes copines, ils venaient à la maison et on jouait avec ma sœur et ça leur posait aucun problème.
Votre sœur, donc, infirme moteur cérébral qui a du mal d'ailleurs à marcher. Enfin, c'est comme ça que vous l'avez montré dans le film,
alors,
dans la fiction.
Le film, encore une fois, excusez-moi, je dis encore une fois, mais c'est la première fois qu'on en parle ensemble, mais comme j'en ai déjà beaucoup parlé, le film, c'est une fiction. Moi, ce que j'ai tiré de ce qui est autobiographique, c'est la difficulté d'abandonner quelqu'un qu'on aime quand elle a besoin de vous. Voilà ce qui est autobiographique. Bon, d'autant plus qu'à l'âge de
dans
mon héroïne, à 18-20 ans, où tout d'un coup, il est question de placer sa sœur parce que les parents sont en train de se séparer. Mmh. Donc c'est, j'ai fictionnalisé ça volontairement pour créer un drame, pour parler de choses, pour parler de ce problème-là, en fait.
Ouais. Quand vous dites, Margot Bonhomme, les enfants, les frères et sœurs qui ont un frère ou une sœur en situation de handicap, les autres, vous l'avez dit à propos de Chloé, 11 ans, et de son témoignage, elle est déjà en train de compenser. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pour vous compenser.
Compenser, c'est elle répond aux questions, elle répond au vide en fait que crée la maladie et le handicap dans l'existence. C'est un bouleversement, c'est gigantesque en fait. C'est sans mesure. Dans le film, moi, j'ai volontairement mis cette famille dans la montagne, au milieu d'un cirque, dans le Vercors. C'est parce que je voulais raconter ça. C'est-à-dire que c'est plus fort que nous, ça nous dépasse complètement. Mmh. C'est vraiment, ça fait partie de la nature, mais c'est sans mesure le bouleversement que ça provoque. Et du coup, quand on est enfant, on essaye de répondre aux choses, à combler le vide avec oui, mais c'est pas si mal, et puis ça me donne ça, et puis ça me donne ça. Puis en fait, moi, ce que je vois derrière tout ça, c'est quand même beaucoup de souffrance.
Est-ce que le risque
après,
pour les...
Que...
Oui, Elisabeth Tchoungui. Oui.
Oui, je pense que cela dépend aussi du type de handicap. J'ai été touchée également par le témoignage de Chloé, parce que oui, je suis d'accord avec vous, on sent qu'elle compense, et en même temps, elle voit son frère handicapé comme d'abord un enfant normal. Et je pense que les frères et sœurs d'enfants handicapés en tirent une force incroyable, en tirent une capacité d'adaptation qui va leur servir tout au long de la vie. Le petit frère d'Alexandre, Raphaël,
alors là c'est la maman qui parle, hein, bien sûr, et Margot Bonhomme est une sœur, donc c'est, vous êtes à des places différentes, hein. Je vois que Margot Bonhomme n'est pas tout à fait d'accord, mais elle va vous répondre après. Allez-y, Elisabeth Tchoungui.
Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que moi j'ai eu à cœur, évidemment, au moment où Raphaël naît, Alexandre est dans un parcours d'errance de diagnostic. Il n'est pas encore diagnostiqué, j'ai un enfant en souffrance et je sais que très tôt j'ai culpabilisé parce que j'avais l'impression d'accorder moins d'attention au bébé, je n'ai pas allaité Raphaël. Donc j'ai essayé de compenser moi-même, par exemple, en le portant tout le temps avec moi. Pour qu'il puisse trouver sa place. Ce que je vois aujourd'hui, en tout cas, c'est aussi ce que son grand frère lui apporte. C'est un bon camarade pour... Alors, il faut savoir que les autistes Asperger sont des autistes verbaux qui ont des intérêts électifs. Donc, par exemple, en ce moment, Alexandre est passionné par la filmographie de Louis de Funès, de Bourville et de Jean-Paul Belmondo, et fait des chronologies comparatives entre les films. Et il a complètement embarqué son petit frère dans ce monde-là. Et du coup, Raphaël, à 5 ans, a une culture cinématographique qu'un enfant de son âge n'aurait pas s'il n'avait pas un grand frère autiste Asperger. Donc, moi, j'essaye beaucoup de travailler sur cette conversion des regards, mais aussi parce que je mesure la chance d'avoir une forme de handicap assez légère dans la fratrie.
Margot Bonhomme, vous sembliez nous dire tout à l'heure qu'il ne fallait pas qu'on tombe dans le piège de l'admiration vis-à-vis de ses frères et de ses sœurs que vous êtes vous-même en tant que cinéaste, toujours debout, dans la résilience, cherchant à compenser et effectivement montrant une forme de chemin aussi pour les parents.
Ah oui, mais alors c'est pas aux enfants de montrer un chemin pour les parents déjà, je pense. Je trouve qu'il y a plein de choses extraordinaires que j'ai montré dans le film, à partager sa vie avec un être hors du commun. C'est très original comme existence, mais je crois qu'il faut vraiment pas se voiler la face sur ce que ça implique pour la construction de la personnalité. Et je voudrais appuyer là-dessus parce que c'est vrai que évidemment pour les parents c'est encore plus culpabilisant. Alors c'est terrible parce que déjà que les parents se sentent coupables, mais on leur rajoute une couche, donc je comprends que on ait envie de voir les choses du bon côté, et puis c'est important de voir les choses du bon côté. Moi j'ai par exemple mis du temps à essayer de voir les choses du bon côté parce que pendant toute mon enfance on m'a dit faut voir les choses du bon côté. Après, la pyramide s'effondre et puis il faut encore 15 ans pour voir les choses du bon côté. Donc je pense qu'il faut bien voir tout ce que ça implique et pas se dire oui mais quand même c'est pas si terrible. Alors comme vous dites, il n'est pas si handicapé que ça, mais non, enfin il est handicapé et pour votre, enfin ceci dit, je voudrais pas m'adresser à cette personne comme ça parce que je sais pas ma place et pas mon rôle, mais enfin en tout cas je comprends la nécessité de relativiser, c'est très important et ça fait partie de la construction de n'importe quel enfant d'ailleurs, je pense, mais dans le cas spécifique des frères et sœurs qui ont un frère ou une sœur dans une situation de handicap, je ne crois pas que ça soit la priorité.
Hélène Daftian, est-ce que la parole de ces enfants, entre guillemets, bien portant, je le mets avec beaucoup de guillemets, mais c'est pour qu'on comprenne bien pour nos auditeurs, de ces frères et sœurs qui vivent avec un frère ou une sœur handicapée, est-ce que cette parole-là, finalement, elle n'est pas assez entendue aujourd'hui ?
C'est une parole qui vient tard, en fait. Moi, ce que je constate, c'est que la plupart de ces enfants, au moment où ils vivent la situation dans l'enfance, c'est-à-dire qu'il faut quand même dire que la relation fraternelle est une relation contrainte. On ne choisit pas d'avoir un frère, en fait. Un frère, c'est un imposé avec lequel il faut composer, qu'il aille bien ou qu'il aille pas bien. Et ça, c'est la richesse de la relation fraternelle, c'est d'apprendre à composer avec l'autre. Ça, c'est très positif, je trouve, parce que ça nous constitue en tant qu'adultes citoyens, où on va aussi dans la société composer avec les autres.
Ça c'est le cas de toutes les familles.
Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Ce que je constate, moi, c'est que, en tout cas, les frères et sœurs avec lesquels j'ai travaillé, donc frères et sœurs de personnes atteintes d'une pathologie qui émerge à l'adolescence, qui est la schizophrénie, c'est-à-dire un frère qui allait bien et puis qui tout d'un coup devient étrange, au moment où ils vivent les choses, en fait, on endure. On endure, on compose, comme vous disiez.
Dans le silence,
sous-entendu. Dans le silence.
C'est-à-dire que les frères et sœurs ne parlent pas.
Avec souvent un déni total de ce qui se passe pour soi-même à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup. Pourquoi je suis venue à essayer de déployer quelque chose pour les jeunes au moment où ils sont dans cette situation, c'est que j'ai entendu beaucoup, beaucoup d'adultes qui viennent dans les cabinets de psy dire « Mais qu'est-ce que... Pourquoi on ne m'a pas aidée au moment où je vivais ça ? Pourquoi on ne m'a pas tendu la main ? Pourquoi on ne m'a pas ouvert une fenêtre ? Pourquoi on ne m'a pas donné d'explication pour faire face à l'étrangeté de mon frère ou de ma sœur ? Donc, c'est vrai que souvent, au moment où ils sont enfants, sous le regard des parents, qu'ils sentent démunis,
débattent même avec les institutions médicales.
Donc leur façon de soulager les parents, c'est souvent de dire tout va bien, t'inquiète pas pour moi, même pas peur, même pas mal. Donc oui, il faut être vigilant à cette... Et en même temps, il faut leur laisser, parce que c'est aussi une belle façon de faire face. Mais
c'est un peu la situation, de toute façon, des enfants en général, notamment, par exemple, dans des situations de conflit, des enfants dans la guerre, qui comprennent que inconsciemment qu'ils doivent se débrouiller seuls et ne pas tenir trop de place dans une situation où, dans une situation qui est très compliquée. Finalement, est-ce qu'on pourrait dire ça de cette façon-là, Anne-Laure Poujol?
Dans les situations de handicap, effectivement, les enfants, chacun des enfants va apprendre, comme le disait Hélène, à composer. Les enfants, les frères et sœurs, l'enfant en situation de handicap lui-même va aussi apprendre à gérer son propre handicap et l'effet de son handicap sur ses frères et sœurs, sur ses parents. Et ça aussi, ça va rentrer quand même en ligne de compte dans la construction de chacun des liens familiaux et dans la façon dont chacun va pouvoir gérer toutes ces émotions qui vont circuler ou pas. Parce que quand Hélène dit que parfois il n'y a pas des mots qui sont placés, ça peut aussi bloquer quand même ces relations et cette circulation de la parole et du coup la circulation des émotions. Donc effectivement, il y a tout ça qui va être élaboré tout au long de la vie. Et c'est ça le lien fraternel aussi, c'est qu'il n'y a pas d'acquis, il y a quelque chose qui se construit et qui s'élabore de la toute petite enfance jusqu'à l'âge adulte.
Oui, je crois quand même qu'il faut dire que toutes les fratries ne sont pas fraternelles. C'est pas parce qu'on est frère qu'on a un sentiment fraternel. Voyez, il y a plein de fratries qui explosent. Donc, il ne faudrait pas partir du principe que la fraternité, c'est un processus. Être frère, c'est un statut. Voilà, on est frère, on ne choisit pas. Devenir frère, c'est autre chose.
Ça veut dire que pour les parents d'enfants porteurs de handicap, vous leur dites qu'il ne faut pas idéaliser un lien qu'il rêverait être très fort, d'autant plus qu'il y a un problème au départ, hein.
Oui, le lien fraternel est fait, on pourrait dire, d'une ligne de tension entre deux pôles, la complicité et la rivalité. Et comment on compose avec ces deux pôles? Parfois, on va uniquement dans la rivalité, ça arrive dans certaines fratries. Et parfois, à l'intérieur d'une même fratrie, il y a des complices et il y a des rivaux, ouais. Ça bouge.
Elisabeth Chongui, comment vous le vivez en tant que maman?
Oui, je me reconnais complètement dans cette ligne de tension, effectivement, entre la complicité et la rivalité. Si vous voulez, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir une fratrie commune, c'est-à-dire, ordinaire, entre guillemets, c'est-à-dire des enfants avec leurs caprices, leurs rivalités, et en même temps, j'ai le sentiment d'avoir deux enfants extrêmement fusionnels. Raphaël, il a du mal à trouver sa place, très clairement, et je suis vigilante là-dessus, je suscite beaucoup le dialogue parce que il va être beaucoup dans comment capter l'attention par la colère, comment surjouer des caprices pour montrer qu'il existe.
Parce qu'il est arrivé 4 ans après la naissance d'un enfant porteur de handicap, c'est ça son histoire finalement.
Voilà, donc il a dû s'imposer en tant que petit frère et puis en tant que petit frère d'enfant porteur de handicap.
Handicap dans la fratrie, je vais redonner le numéro de téléphone du standard et bien sûr on va poursuivre cette discussion. Comment gérer une famille avec un enfant porteur de handicap? Comment surtout vivent les frères et les sœurs aux côtés de l'enfant handicapé? Comment peuvent-ils s'exprimer? Puisque vous l'avez dit, Hélène Daftian, beaucoup disent mais comment j'ai pas pu mieux comprendre, mieux formuler, mieux m'exprimer à l'époque où c'était si difficile pour moi d'être dans ce silence par rapport à toute l'attention et toute la lumière qui était portée sur l'enfant handicapé. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 si vous vous sentez concerné par le sujet. I was scared of dentists in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All of my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dreams. Ooh. Ooh. When they come Gosling chez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI. On parle de ces fratries un peu différentes lorsqu'un enfant porteur de handicap survient dans la famille. Comment le vivent les frères et les sœurs, ou peut-être des frères et des sœurs d'ailleurs qui sont nés après. Comment se passe cette cohabitation? Comment les parents aussi peuvent gérer un sentiment d'injustice chez ces enfants entre guillemets bien portants? Et c'est pas le terme qu'il faudrait employer, mais lequel, tout ça est compliqué d'employer les bons mots. Vous avez bien sûr la parole si vous êtes parents, frères, sœurs dans ces familles. Nous accueillons une voisine qui nous appelle d'Abidjan au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Fatou.
Bonjour.
Vous êtes enseignante. Quelle est votre histoire?
Mon histoire, c'est que bon, j'ai une petite fille, infirme moteur cérébral dont je m'occupe, une petite fille abandonnée par ses parents. Mmh. Bon, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que c'est un handicap lourd. Et moi, je voulais surtout parler de ce que cette présence apporte aux autres enfants, c'est-à-dire à mes autres petits-enfants qui vivent avec elle. Mmh. Au départ, c'était difficile, bien sûr. C'est un handicap qui est lourd, elle ne comprenait pas trop pourquoi elle salive, etc. Mmh. Elle n'osait pas la regarder, elle n'osait pas la toucher. Mmh. Et puis petit à petit, avec des explications, bon, c'est pas sa faute, est-ce que vous aimeriez être à sa place? Est-ce que si vous étiez à sa place, vous étiez rejeté comme ça? Est-ce que ça vous plairait? Bon, mmh. Tout doucement, les choses ont changé. Aujourd'hui, la petite, elle est complètement intégrée. Mmh. Elle rit avec les autres. Quand elle a un petit peu de salive, les enfants viennent, on les suit. Quand elle a ses crises, parce que parfois elle a des convulsions, mm-hmm. Tout le monde vient autour d'elle, on lui fait du vent, on l'appelle, jo, on essaie de la sortir de sa crise. Et je trouve que la petite leur a fait beaucoup de bien. A fait beaucoup de bien aux autres normaux entre
crises. Mais est-ce que cette petite fille que vous avez décidé donc d'adopter, vous aviez conscience qu'elle serait forcément un événement important dans la famille, voire quelque chose qui pourrait aussi causer des difficultés à vos filles?
Non, franchement, j'ai pas trop pensé à ça, mais bon, on est obligé de se rendre compte que c'est un handicap qui est lourd, très lourd.
Donc vous avez accès, en fait, toute cette histoire, vous l'avez axée sur la solidarité nécessaire.
Oui, c'est ça, tout à fait, parce que bon, chez nous, en Afrique de façon générale, je crois que je peux le dire, ce genre d'enfant n'est pas trop considéré, on n'aime pas ces enfants-là. D'une façon générale, bon, évidemment, il y a des centres et tout, il y a des gens qui les aiment, qui mais dans la société, ces enfants handicapés, bon, ils ne sont pas considérés. Ça, il faut qu'on le dise, ça, c'est l'Afrique. Voilà.
Margot Bonhomme, je vous ai vu noter des éléments. Je vous ai senti aussi un peu intriguée sur la façon dont une maman peut finalement imposer d'une certaine manière une enfant qui n'est pas, qui n'est pas la sienne. Au reste de la fratrie?
je trouve que c'est une très belle histoire et que la maman en parle merveilleusement. Et effectivement, j'imagine cette fratrie qui s'anime autour de l'enfant qui a besoin d'attention et de soins. Et c'est sûr que c'est très. Ça change le regard et ça va en faire des personnes très différentes et qui vont regarder le monde d'une manière beaucoup plus ouverte et beaucoup plus passionnante. Voilà. Non, j'ai pris des notes parce que c'est vrai qu'il y a. Ce que ça a évoqué pour moi, c'est la force du lien que ça crée dans la famille. C'est-à-dire que souvent, quand l'enfant handicapé devient adulte et part de la famille éclate. C'est-à-dire que c'est. Moi, j'ai que des très beaux souvenirs d'enfance. C'est encore le passage à l'âge adulte qui est compliqué. Hein. Mais l'enfance, finalement, moi, je m'en souviens parce qu'on était, une famille extrêmement soudée et très solidaire. Et ça, c'est vrai que c'est très beau ce que ça crée.
Ouais, et c'est effectivement le lien avec ce que nous a décrit Fatou. On va parler aussi de l'adolescence. Hein, comment vivre le handicap d'un frère ou d'une sœur au moment de l'adolescence. Merci beaucoup Fatou de nous avoir téléphoné d'Abidjan. Ivana, vous êtes en ligne avec nous au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Ivana.
Bonjour Emmanuel.
Ivana, vous avez 22 ans, vous êtes la petite sœur d'une jeune femme qui intervient de temps en temps dans notre émission, Ninelle, qui a eu un accident à l'âge de... Alors vous aviez 12 ans hein, quand votre grande sœur a eu un accident, c'est bien cela ?
Oui, entre 12-13 ans.
C'est ça, c'est ça. Et donc elle est devenue paraplégique ?
Oui.
Comment vous avez vécu le passage de votre grande sœur de valide à invalide au moment où vous étiez justement aux portes de l'adolescence ?
Bon, moi j'ai eu peut-être la chance ou la malchance de trop vite comprendre des choses parce que à l'école on avait vu ce que c'est que le système nerveux, les nerfs et tout, et puis on m'a balancé la nouvelle. Comme si j'étais un enfant, il ne s'attendait pas à ce que je comprenne les choses, mais moi je savais que les nerfs ne se régénèrent pas aussi rapidement. Donc ça m'est venu comme un choc. Et du coup, j'ai commencé à avoir progressivement des petites douleurs articulaires. Mais on n'en a pas vraiment pris en compte. Et plus tard, après un an de rééducation, quand elle rentre à la maison, que le handicap s'installe vraiment dans nos vies. Donc là, petit à petit, on voit les limites du handicap. On ne s'est pas prévenu qu'avec le handicap, il faut faire ci, mais... Et là, je te rends compte que vous ne pouvez plus partager beaucoup d'activités que vous faisiez autrefois. La danse, pour sortir ou pour faire un voyage, il faut planifier. Pour aller rendre visite à une tante, il faut se demander est-ce que les routes sont accessibles, comment est-ce qu'elle va faire pour y arriver. Et du coup, il y a eu comme un remaniement à la maison. Oui, comme un remaniement. Mon grand frère est devenu ses jambes. En fait, il est devenu une sorte de princesse.
Oui.
De rêve. Mon grand frère était ses jambes, ses pieds, il l'amenait partout où il pouvait. Nous, ses sœurs, bon, moi particulièrement, je faisais tout pour être un peu sa nounou, sa servante, un peu, bref, tout pour être à son service, pour qu'elle ne manque jamais un verre d'eau ou un truc, n'importe quoi, pour qu'elle ne sente pas le handicap.
Et qui a procédé à ce remaniement, vos parents ?
Non, les choses sont allées naturellement, toutes seules. Tout le monde à la maison voulait qu'elle ne manque de rien.
Et est-ce que vous avez eu le sentiment, Ivana, du coup, de vivre une partie de votre vie entre parenthèses, parce qu'il y avait plus urgent, plus grave, plus pressant ?
Et c'est effectivement ça, en fait. C'est ça, surtout mon grand frère qui est devenu ses jambes. Lui, il a vraiment mis une partie de sa vie entre parenthèses, mais c'était tellement naturel parce qu'on l'aimait tous et on voulait toujours la voir sourire. Donc, lorsqu'elle pleurait, c'était comme une période de deuil à la maison. L'ambiance était naze et tout.
Oui, oui. Ninelle, elle nous a envoyé un message, donc votre grande sœur qui est donc invalide, et elle dit « Mes frères ont grandi avant l'âge ». Ils sont super protecteurs, quelque part ils sont nos assistants vu qu'ils portent notre handicap, quelque part cela les invalide aussi un peu.
Oui, j'ai été un peu invalidée également, pas seulement du point de vue de ma disponibilité, mais j'ai traumatisé son accident, donc j'ai fait une sorte de transfert. Moi particulièrement, tellement je voulais partager ces douleurs que je me suis retrouvée à avoir des troubles locomoteurs. Moi-même. Donc, on a fait des tours d'hôpitaux, examen après examen. Ça allait de mal en pire, mais on ne trouvait rien dans les examens.
Ouais.
J'avais des blessures musculaires, une sorte de neurodégénérescence progressive qui, au bout de quelques années, pouvait me mettre dans le fauteuil roulant.
Ouais.
Donc, moi, ici, j'ai fait le cycle de l'hôpital et je me suis retrouvée être un peu aussi la princesse, quoi.
Oui, peut-être que vous aviez aussi besoin d'attention de vos parents. Merci beaucoup, Ivana, de nous avoir appelé. L'adolescence, comment ça se passe dans ces fratries ?
Mais là, c'est aussi quand le handicap surgit. Si on s'est construit enfant... avec cette différence-là de son frère, ou si cette différence surgit à l'adolescence, ce qui est le cas là de Ivana et de sa sœur. Pour ce qui est des troubles schizophréniques, c'est ça qui est très compliqué. C'est qu'effectivement, il y a l'adolescence de celui qui est malade, mais il y a aussi l'adolescence de la fratrie au complet. Et l'adolescence, c'est quand même faire face à la différence à l'intérieur de soi, à l'étrangeté. On se sent étrange quand on est adolescent, qui que l'on soit. Et quand, en plus, on fait face à ce moment-là à l'étrangeté chez son frère, c'est aussi qu'en est-il de cette étrangeté en moi-même ? Je crois que c'est ça qui est...
C'est encore plus difficile d'être dans la norme, hein, ce que recherche l'adolescent.
Oui, et puis ce qu'on voit aussi dans ces témoignages, c'est l'intrication entre moi et l'autre. Hein, quand elle dit que finalement, elle a reproduit des symptômes qui pouvaient faire ressembler aux symptômes portés par sa sœur. Oui, entre frère et sœur, c'est ça qui fait la relation fraternelle. C'est-à-dire, depuis qu'on est tout petit, on joue au jeu des différences et des ressemblances, au jeu des préférences. Et ça s'active au moment de l'adolescence, et ça s'active aussi quand on fait face au handicap ou à une différence qui surgit. C'est-à-dire, qu'en est-il de moi, de cette différence-là ?
Elisabeth Tchungi, vous êtes d'accord ? Est-ce que dans cette fratrie, dans vos deux fils, vous nous disiez d'ailleurs tout à l'heure que Raphaël, qui n'est pas porteur de handicap, a besoin aussi d'exister d'une autre manière, d'attirer l'attention sur lui, même si vous tentez de les élever de la même façon ?
Oui, oui, il a besoin de trouver sa place face à un frère envahissant et j'ai instauré des rituels. Je veille à faire des sorties rien qu'avec lui où justement on parle de lui et de lui et pas par rapport à son frère. Mais tout ce que ça m'inspire vraiment, les témoignages que nous avons entendus, Fatou, Ivana, c'est quand même cette force incroyable que ces enfants, que ces frères d'enfants handicapés ont. Alors, on sent bien que tout ça se construit dans l'adversité.
Et dans la contrainte.
On sent aussi la force, on sent les adultes sensibles qu'ils deviendront. Et puis cette complicité qui est là, moi je suis toujours... Raphaël a très vite compris le handicap de son frère. Ça m'a frappé. Quand il avait 3 ans, Alexandre faisait ce qu'on appelle des crises de décompensation, quand il avait ce trop-plein d'émotions à être à l'extérieur, face aux agressions extérieures toute la journée.
Votre fils Alexandre a été diagnostiqué autiste Asperger, hein, je le précise pour ceux qui nous retrouvent dans l'émission, en cours d'émission.
Absolument. Et donc, comment expliquer un trouble du comportement à un enfant de 3 ans. Il a fallu expliquer la maladie de son frère. J'ai dû employer le mot maladie. Et donc, quand j'ai expliqué ces crises de décompensation liées à l'autisme, etc., Raphaël a tout de suite il a utilisé une analogie extrêmement juste à l'âge de 3 ans. Il a dit, mais maman, en fait, c'est un peu comme quand moi, j'ai la diarrhée. Et ça m'a fait rire parce que oui, c'est un trop-plein qui se déverse aussi. Une crise de décompensation chez un enfant autiste, c'est un trop-plein qui se déverse, un peu comme une diarrhée. Et cette capacité à l'âge de 3 ans de Raphaël à comprendre le handicap de son frère, c'est quelque chose de... C'est extrasensoriel. C'est vraiment... Pour moi, c'est un bonheur de voir ces enfants grandir ensemble avec, justement, la rivalité d'enfants de fratrie ordinaire, mais aussi avec une forme de complicité et de fusion qui est rare et qui est liée à la présence du handicap dans cette fratrie.
On vous donne la parole, les voisins et les voisines. Vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Junior est à Cotonou. Bonjour Junior.
Bonjour.
Junior, vous êtes un adulte paraplégique, vous avez eu un accident, vous étiez déjà un jeune adulte. Quelle relation maintenant vous avez avec le reste de votre fratrie ? Qu'est-ce que ça a modifié ou pas d'ailleurs ?
Déjà, avec ma sœur, parce que j'ai une seule sœur, elle me voyait déjà grand, à 27 ans après l'université, elle était déjà... convaincu du fait que son grand frère était actif et tout, et subitement c'est arrivé.
Oui.
Mais son regard au départ c'était, waouh, comment on va faire ? Est-ce qu'il faut être là tout le temps pour lui ? Est-ce qu'il faut l'assister tout le temps ? Et j'ai passé 6 ans à me soigner, parce que bon, le plateau technique à Cotonou, on sait ce que c'est. Et ça a été difficile. Les séances de rééducation pendant 4 ou 5 années. Elle a pris le temps de prendre la chose, mais elle était déjà mariée. Elle vivait en couple déjà. Donc elle venait avec moi, je vivais avec ma mère. J'étais contraint à vivre avec elle.
Oui, du fait de votre invalidité. Vous avez dit au Standard, Junior, aujourd'hui, j'aide ma sœur. Je ne sais pas si vous voulez dire financièrement, mais en tout cas pour lui montrer que je suis bien son frère, malgré le handicap.
Parce que parfois, je récupère ses enfants qui restent chez moi 2 semaines en vacances.
Oui.
Je sors avec eux. C'est vrai, on ne peut pas aller partout parce que chez nous, il n'y a pas de législation pour rendre l'accès handicapé sensible partout. Du coup, c'est difficile, mais avec mes nièces, neveux, on s'arrange, on va au resto, on va où on peut, je vais à la plage avec eux. Quand ils sont dans le sable, moi, je suis dans la voiture. Donc, on s'est adapté, on a trouvé, j'arrive à aider ma soeur. Ce week-end, elle était avec moi, avec son mari, ses enfants. C'était l'anniversaire de ma mère, on était tous ensemble chez moi. C'était une belle fête. Donc, aujourd'hui, le handicap s'est inséré dans la famille. Tout le monde l'a accepté. Mais c'est vrai, je lis dans leur regard un peu de peine, surtout quand... Je ne peux pas aller partout avec tout le monde, je ne peux pas être...
Néanmoins, vous participez à l'éducation des enfants de votre sœur. Merci Junior de nous avoir appelés. Il y a une question qu'on n'a pas encore posée, c'est la question de l'avenir que se posent tous les frères et sœurs. C'est-à-dire, Margot Bonhomme d'ailleurs, elle est posée dans votre film hein, Marche ou crève, c'est qu'est-ce qui va se passer quand vous ne serez plus là, vous les parents ?
Oui, alors ça c'est une des questions qu'on se pose quand on est frère ou sœur d'une personne qui est dépendante en fait. Et c'est une question assez lourde qui est là, latente, qu'on n'ose pas poser parce que comme toute personne c'est difficile de dire à ses parents comment je vais faire quand tu seras mort. Et encore plus là parce que y a comment est-ce qu'on va faire si la sœur ou le frère est dans une institution, qu'est-ce qui se passe si un jour l'institution appelle en disant en fait, on ne peut plus s'occuper de votre sœur ou de votre frère. La vie sera potentiellement complètement bouleversée. Donc, on est là avec ce postulat. Confier la tutelle de son propre frère ou de sa propre sœur à un organisme, ça paraît complètement... impensable, et toutes ces questions...
Et le risque ou la peur de devenir à son tour un aidant, en fait. Hein, comment accepter ce rôle une fois devenu adulte ?
Oui, tout à fait. Enfin, c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de nos têtes. Alors, moi, j'ai appris avec le temps, en parlant, en rendant les choses un peu concrètes, parce que c'est quand même de l'ordre beaucoup du fantasme, en fait.
Votre sœur est infirme moteur cérébral.
Oui,
elle est donc, on le reprécise pour nos auditeurs qui nous prennent en cours de route, elle est à l'heure actuelle, elle est dans un centre spécialisé.
Elle habite dans une MAS, dans une maison d'accueil spécialisée à Paris. Et donc c'est vrai que le fantasme, donc c'est valable pour d'ailleurs à partir de la naissance jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire que si on peut en parler et rendre les choses très concrètes, finalement on est capable de prendre des décisions. Mais il y a un problème de verbalisation souvent parce qu'effectivement le spectre du décès des parents est trop dur à verbaliser, quoi.
Je pense que ça, c'est quelque chose de partagé effectivement par beaucoup de frères et sœurs. Moi, j'ai cette phrase en tête d'un jeune de 17 ans qui me disait « Mes parents sont au front et moi, je suis réserviste ». Donc, c'était sa phrase que je trouvais très, très explicite. Je pense quand même qu'il faut rappeler que juridiquement, en tout cas en France, les frères et sœurs n'ont pas d'obligation légale à s'occuper du proche malade. Hein. Et que s'ils le font, et je pense que c'est important parce que ça resitue dans la relation fraternelle le droit d'être proche, le droit d'être loin aussi.
Ne vont pas devenir les parents de...
Voilà, il faut penser la façon d'aider autrement, je pense, quand on est parent ou quand on est frère et sœur. Ça aide, ça ouvre aussi souvent. Moi, j'ai reçu une fratrie de 12 frères et sœurs. Et l'aîné, au décès des parents, s'était retrouvé implicitement avec la charge de son frère. Mais il a dit, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord, hein, on va discuter. Et donc, est-ce que vous pouvez nous recevoir à 12? Mais oui, parlons tous les 12, parce que c'est pas pareil une fratrie qu'une relation père-mère avec un enfant.
Anne-Laure Poujol.
Et je dirais que cette inquiétude, elle est aussi partagée par la personne qui est porteuse de handicap, qui s'inquiète aussi de son propre avenir quand ses parents
sont. Si elle a la capacité intellectuelle de le faire, bien évidemment, tout dépend du handicap.
Et puis si elle a la capacité aussi d'en parler, dans ce cas-là, on peut entendre cette inquiétude, mais je pense qu'elle est quand même très présente. Même pour ceux qui n'ont pas la capacité.
Margot Bonhomme, il y a une scène qui est poignante dans votre film Marche ou crève, où la sœur a cette tentation de laisser sa sœur handicapée se noyer.
Oui, alors c'est... ça, pour le coup, ce n'est pas autobiographique. Hein.
Vous aviez besoin de montrer qu'à un moment donné, il y a des pensées comme ça qui traversent le cerveau d'un enfant, forcément.
Alors, sauf que... Enfin, en tout cas, de ma propre expérience, et ce que je pense, c'est que ce sont des pensées tellement enfouies que si j'ai mis cette scène dans le film, c'est aussi grâce au fruit de 15 ans de thérapie pendant lesquels ce désir a été évoqué et remonté de l'inconscient. Donc, vous vous rendez compte du travail qu'il faut pour le faire remonter après dans un film qui se veut dramatique et qui veut remonter à la surface des choses, faire remonter les choses à la surface pour le coup. C'est, je ne crois pas que si vous interrogez n'importe quel frère ou sœur d'une personne fragilisée, jamais ils arriveront à conscientiser ce désir.
Bien sûr.
Mais c'est très enfoui.
Je vous lis le message d'une auditrice en région parisienne, Thérèse, qui a 65 ans, qui a une sœur jumelle handicapée. Elle dit « Ma mère m'a abandonnée au détriment de ma sœur handicapée. Elle ne s'occupait quasiment que de ma sœur. C'était encore plus difficile en tant que jumelle. » On ne parle pas de maltraitance tellement dans les familles où il y a un enfant porteur de handicap. C'est le tabou supplémentaire. Où il n'y a pas plus de maltraitance que dans les familles sans handicap. Hélène Daftian.
Je pense que les parents essayent de composer. On voit bien que là, tout le monde essaye de composer, d'apprivoiser, de comprendre. Et c'est pour ça que je pense que ces familles ont besoin de ne pas porter seules. Et d'où on est dans des sociétés qui, quand même... nos sociétés sont dures avec les femmes.
Qu'est-ce que vous conseilleriez à des parents qui nous écoutent? Comment prévenir le mal-être des frères et sœurs? Comment gérer la situation dans le trop-plein d'émotions, dans le vide aussi des institutions où c'est difficile déjà de gérer le handicap de l'enfant? Qu'est-ce que vous diriez en conclusion, vraiment en quelques mots, Anne-Laure Poujol, pour les parents?
D'aider les enfants à déployer leur relation fraternelle dans toute la complicité.
Ça sera le mot de la fin. Merci à toutes les trois. Margot Bonhomme, le film sort en DVD Marche ou crève. Merci à vous Anne-Laure Poujol, Hélène Daftian et merci à vous Elisabeth Tchoungui d'avoir été en ligne avec nous. À demain les voisins et les voisines.